à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Craponne pour cet invité du jeudi. Aujourd'hui, l'invité du jeudi sur Radio Craponne va recevoir Antonin Malroux pour son dernier roman aux éditions de Boret, Le rêve de Marie-Élise. Antonin Malroux, natif du Cantal, qui a écrit de nombreux livres. Eh bien, on va découvrir avec lui son dernier roman, Le rêve de Marie-Élise, d'Antonin Malroux, éditions de Boret. Voilà, comme promis, eh bien, notre invité du jeudi aujourd'hui est Antonin Malroux, qui est romancier, qui vient de sortir un dernier roman, Le rêve de Marie-Élise, aux éditions de Boret. On le retrouve tout de suite. Antonin, bonjour.
Bonjour.
Alors, bienvenue sur Radio Craponne. Alors, c'est vrai que, bon, on va vous présenter succinctement, hein. Vous êtes originaire du Cantal, vous ? Voilà, vous êtes dans le Cantal. Vous vivez à Clermont maintenant ?
Oui, depuis 30 ans.
Ah oui, d'accord, donc ça fait un petit moment. Oui. Alors, au début, votre métier, c'était quoi en fait ?
Eh bien, j'étais tailleur de vêtements.
Ah, d'accord. Très bien, ben, ça c'est un métier qui a un petit peu disparu, hein. Malheureusement.
Eh oui.
Hein, donc maintenant, des tailleurs, il y en reste quelques-uns, mais pas énormément, alors qu'avant on se faisait tailler les costumes. Et oui.
Alors, mais tout cela, vous savez, quand je suis rentré en apprentissage, j'avais 14 ans.
Oui.
Encore, ça fonctionnait. J'ai passé 3 ans d'apprentissage chez un tailleur de chez moi. Ensuite, j'ai attaqué mon Tour de France de compagnon.
Oui.
Je suis d'ailleurs compagnon du Tour de France.
D'accord.
Et puis après, bon, ça a été l'armée, et puis la vie qui m'a pris à bras le corps.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous amenait à l'écriture ? Parce que alors vous avez déjà écrit beaucoup, beaucoup de romans. Hein.
Eh bien, oui, je dois approcher la trentaine, là, oui.
Oui, pas loin, oui, je pense.
Je me demande comment j'ai fait, d'ailleurs. C'est bon.
Oui, mais qu'est-ce qui vous a dit, je vais écrire comme ça des romans ? Vous avez commencé tard, jeune ?
Eh bien, écoutez, j'ai d'abord été attiré par la poésie, où j'ai fait quelques recueils que j'auto-éditais, et puis bon, ça marchait très bien, mais un jour, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas autre chose ? Parce que c'est vrai que ça se vendait pas trop, mais moi j'étais satisfait de mes maigres résultats. Et puis j'ai écrit un livre, j'ai écrit un roman. Voilà, ça fait donc 30 ans que j'écris à peu près, 30 ans que j'écris, 30 livres, oui c'est ça. Et je l'ai présenté aux éditions de Boret, qui préparaient le concours, le premier concours du prix du roman d'Auvergne. Voilà, j'ai apporté mon manuscrit là-bas. Et puis il se trouve que ce manuscrit a eu le prix du roman, qui a été pour eux le début de leur affaire de production de roman. Donc je suis le premier auteur édité chez de Boret. C'est assez bizarre, j'ai fait un grand tour après chez d'autres éditeurs. Et puis, me voilà revenu. Donc, depuis que j'ai écrit ce livre, ben, la passion m'a pris. Et puis, j'avais de beaux souvenirs d'enfance. Et puis, voilà. Et puis, j'aime ma terre, j'aime l'Auvergne, j'aime les gens simples des campagnes. Voilà.
Très bien. C'est le prix Arverme que vous avez gagné là, avec la Grange au Foin, c'est celui-là?
Le prix Arverme, oui, celui-là, oui.
Ouais, en 2011, hein, vous l'avez reçu,
oui,
celui-là.
C'est ça.
C'est votre dernier prix, ça.
Il y a eu quelques-uns d'autres, mais enfin, celui-là,
oui.
Il a été un peu particulier. C'était bien.
Alors, bon, c'est vrai que... Alors c'est marrant parce que vous êtes né à Boissey, mais c'est pas Boissey parce qu'à côté de chez nous il y a un Boissey, mais vous c'est dans le Cantal, hein.
Oui.
Et la particularité c'est que votre nom a été donné à l'école municipale de Boissey, justement.
Ah là, ça a été...
Ça doit faire plaisir, hein.
C'est plus que plaisir, le mot n'est pas assez suffisant. C'est quelque chose qui est arrivé comme ça. C'est vrai que j'ai toujours été attaché à mon village natal. C'est là où j'ai mis un jour les pieds dans une école, la première école de ma vie. Je ne sais pas si j'avais 6 ans, 6 ans et demi, 5 ans et demi. On ne se rappelle plus dans ma famille à l'époque.
Bah, de toute façon, vous aviez forcément plus de 5 ans. À cette époque,
oui,
on ne pouvait pas l'école avant 5 ans.
Oui, c'est vrai. Mais bon, donc voilà, j'ai commencé dans cette école et un jour, bon, on m'en demandait, le conseil municipal a décidé cette opération, puis m'a demandé l'autorisation parce qu'il la faut, et moi j'étais complètement bouleversé, je ne pouvais même pas répondre au téléphone tellement ça m'a pris le corps et l'âme, c'est vrai, cette affaire.
Oui, ben c'est une grande reconnaissance.
Auteur,
hein.
Un auteur vivant qui a une école à son nom, je leur ai dit que c'était trop, que ça j'étais pas apte à recevoir une telle récompense. Bon, ils m'ont dit, ça c'est notre affaire. Bon, voilà, la ministre Vallaud-Belkacem ayant donné son accord... qu'il fallait que ça passe par là. Et bien voilà, tout s'est fait. J'ai été bouleversé, heureux, et je le suis toujours autant quand j'y repense aujourd'hui.
Vous y retournez de temps en temps à Boissey?
Oui. Je dois les rencontrer au printemps, là. Là, je devais y aller il y a quelques mois, mais avec la Covid, on a été obligé de reporter tout ça. Mais la rencontre avec les élèves de cette école, c'est quelque chose d'inimaginable. Alors, pour eux, ils viennent voir quelqu'un d'abord qu'ils ne connaissaient pas ou si peu. Les parents, oui, mais eux, non. Et moi, je découvre ces petits et je leur ai dit dans mon discours que j'étais l'un des vôtres parce que à un moment, j'étais comme eux, petit, et assis à ma petite table. Voilà. Ça restera un souvenir extraordinaire pour tous les miens.
Oui, c'est certain. Alors, on va parler de votre roman, là, le dernier, Le rêve de Marie-Élise, donc vous venez de sortir il y a quelques semaines. Alors, ça parle d'une rencontre entre deux personnes, hein, qui... Ça va leur changer un petit peu la vie, hein, on peut leur le dire, entre Marie-Élise Juillet et Pierre Destour, parce que c'est quand même deux personnages très opposés. Hein. La petite Marie-Élise, elle, vient de l'assistance publique. Pierre, lui, c'est un paysan retraité qui est veuf, puisqu'il a perdu et sa femme et son enfant, surtout, ce qui est terrible quand même. Et donc ils sont assis dans un square et puis ils observent une gitane, Inès, qui allait calmement son bébé sur un banc. Et oui. À partir de là, eh bien, ils vont échanger leurs confidences, donc vont provoquer chez ce vieil homme une vive introspection et une compassion salvatrice pour la jeune fille. Alors on peut dire que c'est quand même deux générations très opposées, et c'est peut-être ce qui fait la force de ce livre.
Eh bien, je le crois, c'est-à-dire que la sensibilité de l'un et de l'autre va faire que quelque chose va leur permettre de parler, et chacun racontera un petit peu sa vie, surtout la petite, qui est maintenant arrivée sur la Terre dans des conditions tellement extraordinaires, enfin, oui, que le vieil homme va se prendre un peu d'amitié pour cette petite. Lui, il vient là parce qu'il est tout seul, et certains jours, eh bien, il vient au square, ça se passe au square d'Aurillac, et puis il regarde passer les gens, et puis promène son chien, voilà. C'est une rencontre aussi très, très, très originale, et voilà, et ça va donner toute une histoire qui fera l'objet de ce roman.
Oui, alors justement, puisque c'est vrai que donc apparemment Marie-Élise n'a pas connu ses parents, puisqu'elle a été à l'assistance publique où elle les a connus très rapidement, lui il se retrouve veuf, il a pour seul compagnon son chien. Bien, au travers de cette jeune fille, pour lui c'est un bain de jouvence, je dirais, parce qu'il retrouve une jeune personne et ça doit lui faire plaisir, quoi.
Oui, et puis cette jeune personne est attirée par son chien, Padouille, qui comme tous les animaux de cette espèce, se sent assez affectueux. Donc ça va provoquer une belle rencontre. Et puis c'est fait dans la pureté d'une rencontre, comme que ça aurait pu être un grand-père et puis ça aurait pu être sa petite fille. Enfin, c'est presque du même acabit sur la fin. Mais ça s'est fait bizarrement, et la présence de cette gitane a tout provoqué. Elle a provoqué l'émotion de Marie-Élise, voyant cette personne poitrine débraillée qui nourrissait son petit devant tout le monde. Puis la petite, elle s'est bloquée devant, et elle regardait, puis la conversation est venue. Cette gitane a bien vu que cette jeune, elle était un peu prise dans cette atmosphère de voir ça. Elle a tout de suite compris que Marie-Élise devait avoir un problème ou n'avait pas vécu tout ça. Enfin, ça a été le déclencheur. C'est le déclencheur, c'est une gitane qui nourrissait son petit à son sein. Et la petite lui dit, mais il va vous manger tellement il a faim. Enfin, quelque chose comme ça. Voilà les premiers mots que ces deux personnes ont échangé. Et puis après, en retournant quelques mètres plus loin, il y a cette rencontre avec ce monsieur.
Oui, alors, bon, là, vous êtes encore dans un monde à part, parce que quand même, les gitans, c'est un monde un peu en marge, hein, de la société, donc oui. Ce qui donne encore un peu plus d'attrait à votre histoire.
Eh bien oui, mais... Vous savez, quand j'étais petit... J'étais, alors que maintenant on ne le voit pas, puis d'abord on habite en ville, mais dans les campagnes, passaient souvent on appelait ça des bohémiens, des ferrailleurs, eux qui passaient dans les maisons chercher les outils en cuivre pour les réparer, et puis ils restaient quelques jours au village, et ils devaient envoyer leurs enfants à l'école pendant le temps où ils étaient là. Je sais pas, ça marchait comme ça. Et moi, de gamin, j'étais toujours attiré par ces bohémiens. Et j'étais tout de suite copain avec de leurs enfants. Ça agaçait mes parents, d'ailleurs. Mais moi, ça m'attirait. Alors peut-être que là, il y a une réminiscence de ces souvenirs. C'est vrai. C'est comme quand passait un cirque, j'étais tout de suite fourré autour du cirque à regarder, observer, à essayer de discuter. Voilà, c'est peut-être un de ces petits côtés là qui m'a provoqué cette idée de rencontrer cette gitane, peut-être.
Oui, ben c'est vrai ce que vous disiez, puisque moi j'ai connu ça aussi en vivant dans une petite commune, hein. Donc ils venaient et souvent on les retrouvait toutes les années, ils revenaient toutes les années, ils passaient, ils restaient. Alors c'était variable, hein. Des fois c'était un mois, des fois c'était un petit peu plus, un petit peu moins. Mais à force les gens les connaissaient, et, oui, ils rempaillaient les chaises aussi.
Voilà.
Ouais, c'était une ambiance. Bon, maintenant c'est un petit peu disparu, alors ils existent
Oui,
toujours.
tout à fait.
Mais maintenant, c'est des 4x4 et des grosses caravanes, donc ça n'a plus rien à voir avec les chevaux
Non.
qui tiraient les roulottes. Ça, c'est un petit peu terminé, hein. Donc voilà, bah, peut-être que ça va, pour les jeunes qui vont lire votre roman, ils apprendront sûrement beaucoup de choses sur les gitans.
Eh bien, écoutez, c'est fort possible, mais bon, moi, vous savez, quand on écrit, on écrit, on veut faire une belle histoire qui pourra être lue par tout le monde, les enfants tout âge et aux grands-parents, et j'essaye de les amener dans l'ambiance que je crée, c'est-à-dire dans une ambiance simple où tout est compréhensible et où il n'y a pas de chemin qui envoie les gens ou qui empêche les jeunes de le lire. Moi, je n'ai jamais écrit quelque chose de tendancieux. D'autres le font, pas moi, c'est pas mon style. Mais je vais vers des personnages que je trouve, et dans tous mes livres, toujours intéressants, avec peut-être une, je m'en rends compte de plus en plus, un attachement à la vie des femmes des campagnes, celles qui ont trimé dans des temps difficiles. Le travail était dur, il n'y avait pas grand-chose pour vivre, à part le produit de leur ferme. Et je trouve que les femmes ont une part que l'on n'aura pas assez donnée dans leur vie. La femme, pour moi, c'est la maîtresse du monde, c'est pas l'homme. Alors, souvent, je m'accroche à ces sentiments échangés. Là, une mère, une grand-mère, c'est extraordinaire. Enfin, j'essaye de le présenter ainsi.
Voilà, là on peut dire que c'est quand même trois mondes différents, hein, qui se rencontrent, hein. Gitan, un vieil homme là, un ancien agriculteur, et puis cette jeune fille qui vient de l'assistance publique. Alors on sait que quand on vient de l'assistance publique, c'est pas simple parce qu'en fait, elle n'a pas une jeunesse comme elle voit cet enfant avec cette gitane. Donc c'est vraiment trois mondes différents qui vont se rencontrer et qui vont échanger. Ça.
Elle lui confiera, Marie-Élise confiera à cet homme son histoire d'enfant trouvé. Et là, il y aura beaucoup d'émotions parce que trouvé dans un tour d'abandon à l'hospice, là, tout ça aujourd'hui a disparu, mais à l'époque, c'était tout à fait courant. On déposait les nouveau-nés indésirables soit devant les hospices, les hôpitaux, les églises, etc. Mais là, il y a eu cette histoire de tour d'abandon que peu de gens, à l'heure actuelle, connaissent ou même ont même entendu parler.
Ok, donc ça c'est une découverte aussi. Donc bon, on va pas révéler
Ah non, non,
ah
non,
ben,
non, mais bon.
tout le livre. Non, mais on parle un petit peu de la trame, quoi. Voilà un peu
Oui.
ce qui va se passer tout au long de cette histoire entre ce vieil homme, Marie-Élise, et puis cette gitane
Et le chien.
et le chien. Faut pas oublier Padoue, il y a
Et
qui
le
fait,
chien Padoue.
ouais, qui fait partie intégrante de ce
Ah oui.
roman. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de ce. Vous l'avez situé dans le Cantal, dans.
Oui, puisque le square dont
Oui,
il
Aurillac, comme il
s'agit,
dit,
c'est le square d'Aurillac qui existe toujours et qui en était à l'époque à sa première réalisation.
D'accord. Donc voilà. Donc, alors, c'est venu de votre imagination, ça, ou c'est une histoire qui a été vécue, qui a été vraie?
Quand on n'a pas de mémoire, il faut avoir de l'imagination.
Voilà, vous avez de l'imagination.
Et j'essaye, mais imaginer, c'est. Bon, on peut toujours imaginer, c'est facile. Mais quand on veut construire avec plusieurs personnages, plusieurs familles, une situation, il faut que ce soit cohérent. Donc, par-ci, par-là, je vais chercher dans mes souvenirs quelques situations que j'accommode avec la vie de mes personnages pour les rendre plausibles dans cette histoire et les faire vivre et leur donner une valeur extraordinaire, alors que certains n'ont jamais existé. Mais c'est peut-être pas le rôle, parce qu'on n'a pas de rôle, mais c'est peut-être le travail d'un romancier. Voilà. Et ça rapproche les gens qui lisent, puisque je n'ai pas un lectorat de 12 ou 15 ans, mais ça rapproche après les gens vers ce passé, dans les familles, ils en parlent, oui, tu vois, moi, à l'époque, j'ai fait ci, j'ai fait là, les foins, etc., etc. C'est pas si loin que ça, puisque c'est encore dans nos mémoires, mais pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est très loin, parce que le temps va... Les événements vont tellement vite, chaque jour efface ce qui s'est passé la veille, et on est pris dans un tourbillon d'informations, de tout ce que vous voulez, que je pense que les auteurs régionaux comme moi, eh bien on peut ramener pendant quelques instants de lecture les gens à une époque un peu plus ancienne.
Oui, alors aujourd'hui on parle du rêve de Marie-Élise d'Antonin Malroux, éditions de Boré. Alors c'est vrai ce que vous disiez, et puis on est d'une génération, c'est vrai qu'on ça fait pas si longtemps que ça, hein. Mais bon, les jeunes maintenant c'est le téléphone portable, c'est l'internet, enfin c'est un petit peu tout. Quand on leur dit quand même qu'à une époque, pour téléphoner, il fallait appeler une standardiste et lui demander le numéro. Là, les gars, ils disent, mais qui c'est ce dinosaure, là? Parce que, ouais, et pourtant, c'est pas si vieux que ça. Hein. C'est...
Et non, c'est pas vieux, mais le monde change très vite.
Trop vite, oui, peut-être.
Et même avoir la radio, c'était quelque chose de...
Ah bah, exceptionnel.
Tout le monde ne les avait pas. Il y avait mille choses. Bon, enfin, bon, ça, c'est le passé de tout le monde qui a vécu un peu plus dans nos régions, parce que dans les grandes villes ou Paris, il y avait bien autre chose qui s'y passait, mais pas tout à fait les mêmes.
Oui, puis bon, ouais, des livres comme ça, alors le vôtre et puis certains autres auteurs, eh ben, ça fait partie un petit peu du patrimoine, parce qu'on se rencontre, je ne sais plus, je crois que c'est un dicton africain, qui dit que chaque fois qu'un homme meurt, c'est une encyclopédie qui s'en va. Ben oui, parce qu'en fait, c'est un petit peu vrai, hein, parce qu'on a des souvenirs, tous on a des souvenirs, oui. Et après on les transmet aux jeunes générations, parce que certains sont à des lieux d'imaginer ce qu'on a connu, nous, qui sommes passés maintenant dans les septuagénaires. Donc,
voilà.
On a connu des choses qu'ils connaîtront plus, quoi, qu'ils imagineront même pas.
Non. Et c'est pour ça qu'au travers de courriers que l'on reçoit de lecteurs ou lectrices de mon âge ou à peu près, les gens nous disent, mais quel bonheur de retrouver, parce qu'ils retrouvent et c'est là leur bonheur de lecture, alors que c'est simple, nous ne sommes pas prétentieux dans quoi que ce soit, mais peut-être ambitieux de refaire vivre un peu ce contact avec la terre, avec toute la vie des campagnes, sans gêner personne. Au contraire, on fait revivre, et ma foi, le temps que ça revit un peu, eh bien écoutez, nous on a le temps de vieillir et puis de disparaître aussi.
Oui, c'est totalement vrai, parce que moi aussi, mes grands-parents étaient dans un tout petit village. Je suis né dans un tout petit village et on avait une bande de copains et on se retrouve 70 ans après. Ben, on se rappelle ces merveilleux souvenirs, parce qu'on dit finalement, mais nous, on a vécu une jeunesse dorée. On était heureux, on n'avait aucun problème, tout allait bien, on s'amusait avec rien. C'est vrai qu'on se remémore ça, ben, pour nous, c'est des souvenirs magnifiques, quoi.
C'est vrai qu'on s'amusait avec rien, mais ça c'est vrai.
Oui, ça je confirme.
Oui.
Eh oui, mais c'était une époque comme ça. Maintenant, ça a changé. Alors bon, il faut pas faire non plus. Peut-être que les jeunes qui connaissent que ça sont aussi heureux, hein, sûrement. Enfin, on ne sait pas. Mais bon, c'est vrai que c'est une autre période et qu'on reverra jamais, hein, parce que maintenant, comme vous disiez, ça va tellement vite qu'on voit des changements à une allure supersonique, hein, donc c'est très très compliqué. Oui.
On le voit par le comportement de nos petits-enfants, et bientôt arrière, on voit l'immense changement, et puis bon, c'est plus les mêmes, mais quelque part, on cherche les détails qui nous rapprochent quelque part, et là, c'est la tendresse, c'est l'amour des petits-enfants, il faut recréer tout ça, même dans les plats que l'on prépare, quand ma femme leur prépare plein de petites choses, ou la truffade, ou tout ça, de notre passé, ben, ils trouvent pas ça ailleurs, ou certaines manières de cuisiner ceci, cela, ils disent, oh là là, mamie, c'est des choses que les autres font pas. Heureusement qu'il nous reste un peu ça.
Oui, c'est vrai. Donc, le rêve de Marie-Élise d'Antonin Malroux. Alors, comme je le dis, on le trouve dans toutes les bonnes librairies, hein, bien sûr, hein, puisque Debouré distribue pas mal. On a fait un petit peu le tour de l'histoire. Hein. Il faut lire maintenant pour découvrir. Oui, vraiment, oui. On va pas tout vous expliquer, hein, aux auditeurs. Il faudra qu'ils achètent le livre pour découvrir un petit peu ce rêve de Marie-Élise. Alors, vu que vous êtes très... vous écrivez beaucoup de romans. Il y en a un sous le coude, là ?
Oui. Oui.
Oui, déjà.
Il y en a un qui est prévu pour l'année prochaine.
D'accord. On va changer complètement de sujet.
De sujet, oui. Je suis en train de... Vous m'avez tellement emporté dans mon truc que je ne me rappelle plus le titre. D'ailleurs, je ne vous le donnerai pas encore.
Non, non, d'accord.
Oui, oui, il est prévu pour l'année prochaine. Et je suis en train d'en préparer un autre, de mettre déjà les premières pierres au bord du chemin.
D'accord, ben, je vois que vous n'arrêtez pas. Quoi. Vous n'arrêtez pas. Hein, vous êtes...
Écoutez, j'ai passé une vie pour vivre normalement et suivre un peu l'idée des parents, des grands-parents qui n'ont fait que travailler toute leur vie, je me rends compte que je n'ai fait que ça, et ça ne peut pas me passer, et vous voyez, je m'ennuie quand je ne fais rien.
Ok.
C'est comme ça.
Très bien.
Alors j'écris.
Eh ben oui, hein, c'est une passion comme une autre. Hein. Il y en a qui font du sport, il y en a qui font de la cuisine, il y en a qui écrivent. Hein.
Tout à fait. Ben, il faut de tout le monde pour faire un monde.
Ouais, c'est ce qu'on dit. Mais écoutez, Antonin Malroux, merci d'avoir été avec nous. Donc je rappelle le titre de votre livre, Le rêve de Marie-Élise d'Antonin Malroux, édition Debouré. Ben, peut-être un cadeau pour ces fêtes de Noël, puisqu'on sait que c'est compliqué. Mais enfin, les librairies vont rouvrir. Donc,
demain.
Ouais, c'est déjà une bonne nouvelle.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai.
Mais écoutez, merci d'avoir été avec nous. Et puis, à votre prochain roman, alors.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Bon. Au revoir.
Bonne journée à vous.
Au revoir.
Au revoir et merci.
Voilà, notre invité du jeudi aujourd'hui était Antoine Malroux pour son dernier roman, Le rêve de Marie-Élise aux éditions de Debouré. Vous savez que cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h, et le mercredi à 12h30. Et on va se quitter puisqu'on a parlé de la rencontre avec cette gitane. Eh bien, on va écouter Chico et The Gypsy King, qui nous interprète bien sûr tout simplement la gitane.
Comme un artiste à l'envers. Comme un enfant qui se perd, j'étais comme ça devant elle. Elle était tellement belle, Ma tête tourne, ma tête rate, à coup de tambour qui éclate, un fou qui fait n'importe quoi, qu'elle ne soit rien que pour moi, pour qu'elle m'aime, je ferai n'importe quoi. Ma tête tourne, ma tête rate, à coup de tambour qui éclate, je veux qu'elle devienne ma loi, je serai le mendiant, le roi, pour qu'elle m'aime. Des montagnes, à brûler la terre entière, à faire 10 000 ans de vagne, à vider l'eau de la mer, pour la serrer contre moi, sentir trembler ses doigts, au bout du souffle de sa voix, entendre qu'elle m'aimera, comme le piano qui se casse, les notes écrasées par terre, comme le feu sur la glace, l'avion qui explose en l'air, je vendrai mon âme au diable, je viderai l'eau des rivières, pour être seul à la table de qu'elle préfère. Ma tête tourne, ma tête frappe, à coup de tambour qui éclate, un fou qui fait n'importe quoi, qu'elle ne soit rien que pour moi, pour qu'elle m'aime, je ferai n'importe quoi. Ma tête tourne, ma tête frappe, à coup de tambour qui éclate, je veux qu'elle devienne ma loi, je serai le mendiant, le roi, pour qu'elle m'aime. Qu'elle ne soit rien que pour moi, pour qu'elle m'aime, je ferai n'importe quoi. Ma tête tourne, ma tête frappe, à coup de tambour qui éclate, je veux qu'elle devienne ma loi, qu'elle ne soit rien que pour moi, pour qu'elle m'aime, pour qu'elle m'aime.
Voilà donc ce morceau, Chico et les Gypsies, avec la gitane, puisque nous avons parlé du livre de Le rêve de Marie-Élise, Antonin Malraux, aux éditions de Boré, sur Radio Craponne, était notre invité du jeudi, et on ne peut pas faire autrement que de se quitter avec Guylaine Laure, accordéoniste auvergnate, et qui nous interprète, bien sûr, vous l'aurez deviné, Belle Gitane.
Danse pour nous. Ton rythme un peu fou, des rires et des larmes, les hommes à tes genoux sont des pauvres diables, ils vendent les armes aux belles gitanes. Emmène-moi, belle gitane. sous ton charme. Je voudrais avec toi étourdir mon âme, même si je me damne, ma belle gitane. En terre catalane, je suivrai au lointain ta robe de flamme, jolie fleur d'Espagne, ô belle gitane.
Voilà donc, nous terminons cette émission d'invité du jeudi avec notre invité, la belle gitane, bien sûr, puisque Antonin Malroux nous a parlé du rêve de Marie-Élise aux éditions de Boré, et l'histoire eh bien, débute un petit peu avec la rencontre avec cette gitane. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.